actions sont des choses qui, a priori, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quand on vous parle d'une articulation, de circulation veineuse, de prurite, c'est-à-dire la peau, d'épuratif pour le sang, le foie, l'utérus, vous dites, hein, elle fait tout ça, cette plante-là. Alors, effectivement, une plante va agir sur plein de choses différentes, parce qu'à l'intérieur de cette plante, vous allez avoir toutes sortes de principes actifs. Vous allez avoir un principe actif de majeur, qui vont caractériser les utilisations les plus fréquentes de la plante. Et puis, autour de ça, vous allez avoir des principes actifs mineurs, mais vous allez aussi avoir des protéines, des sucres, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes, des hormones. Et tout ça, ça va moduler l'action de la plante. Ça va c'est le totem de la plante qui va agir. Ça s'appelle le totem. T-O-T-U-M. Ça, c'est hyper important que vous reteniez ça.
De quoi ? Totem.
D'accord ? Ça veut dire que c'est l'ensemble de la plante ou de la partie active de plante. Donc, ça peut être des graines, par exemple. Ça peut être des feuilles, ça peut être des racines, ça peut être des fleurs, ça peut être... Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit l'ensemble de la plante qui est servie, l'ensemble de la partie active de la plante que vous voulez utiliser, qui soit utilisée dans son ensemble. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, on va retourner sur l'exemple du chardon mamie. Ici, je vous ai mis le principe actif majeur, c'est la silymarine. D'accord ? Ça veut dire que dans le chardon marie, il y a de la silymarine, mais avec la silymarine, il y a donc d'autres sucres, il y a des protéines, il y a des enzymes, il y a des minéraux, il y a des oligo-éléments. Si vous enlevez de la plante la silymarine, chimiquement, on peut le faire. On peut extraire le principe actif silymarine du chardon marie. Eh bien, si vous donnez la silymarine extraite uniquement cette molécule-là à vos patients, eh bien, ça n'aura pas le même effet que si vous donnez le chardon-marie, la partie active du chardon-marie dans son ensemble.
Le chardon-marie, il a une fleur qui ressemble à l'artichaut.
À l'artichaut, là.
C'est celui quand il est sec.
Voilà, c'est un peu ça.
C'est celui-là.
Donc, voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment que quand vous donnez des plantes, vous donniez la partie active dans son ensemble, broyée, macérée, infusée, si vous voulez. Mais surtout, il ne faut pas utiliser... Alors, on confond souvent extrait avec extrait. L'extrait, parce qu'elle a été macérée, etc., c'est un extrait de la plante entière. L'extrait, quand on a extrait chimiquement, dans un laboratoire, uniquement le principe actif silymarine, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, il y a des gens qui vont vous vendre de la phyto en vous disant « Oui, c'est à base de plantes, ça contient de la silymarine. » Oui, mais d'accord. Sauf que ce n'est que cette molécule, et encore, vous n'êtes pas sûr qu'elle soit naturelle. Parce qu'on peut aussi, cette molécule-là, les synthétiser en laboratoire. Et à partir du moment où elles sont synthétisées en laboratoire, elles ne sont plus du tout les mêmes que celles de la nature. Il y a une différence, le lévogyre, le dextrogyre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'organisme ne sait pas s'en servir de la même manière. Et en plus, vous avez perdu tous les petits copains qui aident. C'est un peu comme si quand vous vous retrouvez, par rapport, vous êtes habitué à travailler à 5 ou à 10 dans une exploitation, chacun fait quelque chose, et puis un jour, il y en a 9 qui sont en vacances, et puis vous êtes tout seul avec votre balai dans votre couloir, ça ne marchera pas de la même manière, voyez, parce qu'il n'y aura plus les différentes parties. Ou si vous vendez, par exemple, du fromage fermier ou des poulets en direct, eh bien, vous n'avez pas votre vendeuse, vous n'avez pas la personne qui abat, qui plume, etc. La chaîne est cassée. C'est la même chose.
Est-ce qu'il y a un stade pour récolter la plante ?
Ah oui, alors ça aussi, il y a des stades, effectivement. Il y a des moments dans l'année, il y a des... Voilà. Après, c'est pareil, ça, c'est... Voilà, on n'a pas le temps de discuter tout ça aujourd'hui, mais effectivement, tout ça rentre aussi en ligne de compte.
Si la plante fait le croisement de l'artichaut et du chardon, il a les avantages des deux.
Alors ça dépend, c'est comme chez nous, comme chez les animaux. Parfois, vous allez avoir, en F1, vous allez avoir de tout.
Je sais plus comment il s'appelle, celui-là.
Donc les plantes qui sont citées à tropisme hémépathique, ça veut dire tropisme, ça veut dire qu'elles ont un intérêt, elles fonctionnent principalement sur cette. Voilà. Cités en amont ont également souvent, bien sûr, des vertus digestives. Quand le foie va, tout va. Hein, on dit toujours, souvent ça. Alors, il existe aussi des plantes anti-inflammatoires. Pour celles que je vous cite, c'est parce que ces choses vont avoir un intérêt pour vous, là, aujourd'hui, vu qu'on est sur un truc assez rapide. Le cassis, alors, c'est pas la liqueur de cassis, ou le, je sais plus comment ça s'appelle, la crème de cassis. C'est la feuille de cassis. Hein. Le cassis est un puissant anti-inflammatoire. Il est, à la limite, il est cortisone-like. Ça veut dire qu'il va avoir une action aussi puissante au niveau anti-inflammatoire que la cortisone. Mais sans en avoir les effets indésirables. Vous allez la trouver, le cassis, sous forme donc de feuille de cassis. Mais si vous voulez l'utiliser de manière encore plus forte, vous allez l'utiliser sous la forme gémothérapique. Alors c'est quoi cette bête-là? Là ici, je vous ai marqué ça là. Alors là, on utilise les bourgeons. Les bourgeons des petites des feuilles, hein, les bourgeons des branches. Et donc on est sur les bourgeons ou les jeunes pousses, ça dépend de quelle plante il s'agit. Donc dans le cas du cassis, ce sera le bourgeon. On va faire un macérat de ces bourgeons. Alors cette fois-ci, on ne va pas macérer dans de l'alcool, mais dans de la glycérine. Et en pharmacie, vous allez trouver ça sous la forme diluée au dixième. Et ça va s'appeler macérat glycériné de bourgeon ou de jeune pousse, ça dépendra de quoi. Par exemple, Olivier, ce sont des jeunes pousses. 1, le chiffre 1, D. Donc ici, vous allez avoir le nom du cassis en latin, c'est ribes. Nigrum. Alors, les noms des plantes pour la pharmacie, c'est souvent en latin. Macérat glycériné bourgeon 1D. Ça s'achète à la pharmacie. C'est hyper efficace sur les inflammations. Toutes les inflammations. Donc, que ce soit des inflammations digestives, des inflammations osteo-articulaires, des inflammations respiratoires, de la fièvre. Donc, ça s'utilise de façon très facile parce que c'est liquide. Et vous pouvez l'intégrer dans les pompes doseuses, si vous donnez à boire à vos poules ou à vos poulets avec une pompe doseuse. Vous pouvez le mettre dans les abreuvoirs, si vous n'avez pas d'autre solution. Vous pouvez le donner directement dans la gueule, s'il s'agit d'un animal plus gros, type une vache, un veau, un mouton, un cochon, s'il n'y en a qu'un. C'est hyper efficace. Dès qu'il y a eu une inflammation ou une fièvre.
Mais quelle quantité, par exemple?
Alors, pour une vache, en général, je fais donner 5 ml. Donc pour les volailles, je travaille souvent pour 1 ml, 1 ml pour 100 ou 1000 litres. Ça dépend un petit peu d'autres boissons. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites quantités. Si vous pouvez... Si vous
1 ml pour 1000 litres.
Oui, 1 ml pour 100 litres. Ouais.
C'est pour 100 ou 100 000.
Oui,
c'est pour 100 ou pour 1000.
Oui, pour 100 litres.
Non, vous avez dit pour 1000 litres.
Oui, excusez-moi.
Millilitres, vous voulez dire.
Ouais. 100 litres d'autres boissons. Alors, si vous avez peur, avec celui-là, vous pouvez monter un tout petit peu la quantité. Vous pouvez aller à 10 ml pour 100 litres. Ça suffira. Il n'y aura pas besoin de plus. Vous voyez, à ce moment-là, ça ne coûte plus très cher.
C'est pour ça qu'on a une activité bourgeon de cassis à Dijon.
C'est possible.
C'est, pour le c'est dans ce qu'on a vu.
Oui, le vaccin, c'est pour le parfum.
Et BGAD, ça veut dire quoi?
Bourgeon.
Ah oui, bourgeon.
D pour un dixième. Alors moi je les vends purs les trucs, donc je ne les ai pas dilués au dixième, je les vends purs.
Vous les fabriquez vous-même?
Non, je les achète dans un laboratoire du Maine, moi.
D'accord.
Parce qu'en veto, je n'ai pas trouvé de laboratoire qui me les fournissait. Mais vous pouvez les acheter à la pharmacie. Alors je vous dis tout de suite, ce sera ou Rocal, je crois que c'est Rocal Laboratoire, ou Boiron.
Boiron,
parce qu'il y a que ces deux-là qui les vendent, mais bon, ça va, ça marche.
Et à quel prix à peu près?
Ça, par contre, en pharmacie, je vous avoue que déjà les prix de mes propres médicaments, je ne sais pas combien ils coûtent, alors ceux de la pharmacie...
Et du coup, le dosage, c'est pour du dilué au dixième, c'est pas pour du pur?
Oui, ben vous pouvez, quand c'est du pur, par exemple, moi, j'ai des gens, ils m'achètent une bouteille de 60 ml ou de 50 ml pur, ben je leur dis, vous le diluez au dixième éventuellement, ça permet de... Oui, on dilue au départ un peu dans de l'eau, voilà, et puis après, vous en mettez...
Oui, mais s'il n'est pas dilué.
De l'eau, d'alcool.
Et quand on dit de l'eau, c'est de l'eau.
De l'eau de bouteille, de l'eau de pluie, de source, mais propre. Voilà, s'il y a de préférence avec le minimum de chlore dedans. Le minimum.
Si on veut le garder un peu, il faut mettre un peu d'alcool.
Oui, vaut mieux. Et garder au frais aussi.
Tous les tanins sont antidiarrhéiques.
Alors, les tanins sont en général antidiarrhéiques. Alors, c'est pareil, par exemple, vous avez l'écorce de noyer ou le brunois, c'est un tanin. Le gland, par exemple, les glands, c'est des tanins, d'accord, contiennent des tanins. Donc, vous pouvez avoir un effet bénéfique quand, par exemple, vos cochons corses, là, ou non, pas corses, basques, il y en a un qui a ramené des cochons dans un sac à dos, là. Quand ils mangent des glands, ça va leur faire du bien. Mais vous pouvez aussi, s'ils en mangent trop, les rendre malades. Moi, j'ai vu des chevaux et des vaches mourir parce qu'ils ont mangé trop de glands. Alors, ils ne meurent pas nécessairement par un problème digestif. Ils meurent parce qu'il y a des toxiques qui sont récupérés dans le sang, qui vont aux reins et qui leur bousillent les reins. Vous voyez, donc c'est quand même pas si facile que ça à manier les plantes. Il faut quand même faire un peu attention.
On avait pu en mourir de la cirrhose.
On a, ben ça, oui, en général.
Du vent du vin.
Oui,
tout à fait. Et les cordes de noyer, comment l'utiliser?
Ben pareil, on fait une décoction, puisque c'est dur. Donc tout ce qui est mou, souple, c'est infusion, et ce qui est dur, c'est décoction.
Ça peut être toxique, les cordes de noyer.
Si on en prend
moi,
trop,
j'ai un exemple comme ça. J'avais une vache, dans une petite parcelle, j'avais un noyer, une vache qui allait veler, qui a eu certainement un stress ou je sais pas quoi, elle s'est mise à bouffer l'écorce du noyer, et je l'ai retrouvée morte, et je regarde à côté, le noyer n'avait plus d'écorce.
Et ben voilà.
J'ai appelé le véto, on a autopsié, on a regardé dans la panse, elle avait bouffé toutes les écorces du noyer.
Voilà. Et ben donc elle en est morte.
Pourquoi elle a fait ça? Moi je me disais, elle avait un stress.
Elle
l'a mangé comme ça, mais je me dis que les animaux, ils ne vont pas les consommer s'ils n'ont pas un besoin particulier.
À mon avis, elle avait certainement, on va dire, une diarrhée ou quelque chose. Elle a mangé ça pour essayer de se soigner. Et après, Par contre, il faut aussi savoir que les animaux peuvent être moins. Et si elle a aimé le goût, elle peut l'avoir mangé par goût. Les chevaux qui mangent des glands, par exemple, ils deviennent fous avec ça. Ils n'arrivent plus à les arrêter, quoi. Alors, ça va les tuer, quoi. Même les animaux ont des perversions,
L'humain en a plus.
Parce que nous, on a le mental qui, mais les animaux peuvent être accros à quelque chose.
C'est pour ça qu'il faut regarder les formes de lobotomie.
Mieux.
Les plantes, les feuilles de cassis peuvent avoir une action antidiarrhéique grâce aux tanins qu'elles contiennent. Et donc, moi j'avais des éleveurs d'agneaux de chair, quoi, qui étaient en extensif. Donc, ils étaient avec des brebis sur des grandes parcelles. Et effectivement, les agneaux, ça, comme tous les petits animaux, de temps en temps, la diarrhée. Et ils avaient vu que régulièrement, ils allaient manger les feuilles. Alors, c'était pas du cassis, puisqu'il n'y en avait pas, mais les feuilles de ronce. Il y a un petit peu, au niveau de la feuille, un peu le même principe. Et effectivement, ça, ils se régulaient comme ça tout seuls, à différentes périodes de l'année. Ils les voyaient manger des herbes et des plantes différentes. Alors, vous avez aussi la raie des prés, que vous connaissez très bien, et qui contient de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est quoi? C'est le précurseur de l'aspirine. Et donc, vous avez une action anti-inflammatoire puissante et de nouveau fébrifuge, donc qui fait tomber la fièvre, associée à une action diurétique, donc faire pipi, et aussi antidiarrhéique par l'action astringente.
On peut l'utiliser pour la grippe?
Alors, on peut l'utiliser pour la grippe, et on l'utilise d'ailleurs pour la grippe. Et il y en avait dans un produit qu'on ne peut plus pour l'instant commercialiser, c'était fond, parce qu'il était partie des plantes qui ont été interdites. En complément alimentaire, ça s'appelait on le donnait en entrée à l'étable pour effectivement diminuer les risques de grippe. Donc vous pouvez en trouver autour de chez vous, parce qu'on utilise les inflorescences, on utilise la belle fleur blanche là qu'on voit pousser dans les fossés dans l'humidité. Donc, par contre, il faut faire attention, si on en prend trop, ça peut faire saigner. Ça fluidifie le sang.
C'est un anticoagulant.
Donc, si vous avez déjà des problèmes de coagulation du sang, ou une femme qui a ses règles, par exemple, qui prend de la reine des prés, elle peut avoir une petite ménorragie qui s'installe, quoi. Hein, il faut faire attention à ça. Si vous avez des ulcères de l'estomac,
empêcher d'avoir des crampes.
Oui, quand on fait du sport. Hein.
Non, mais c'est dangereux. Hein.
Oui, c'est dangereux. Et oui. Le saule blanc, c'est exactement le même principe que la reine des prés. Et vous avez une autre plante, qui est la sauge, qui contient elle aussi de l'acide salicylique. Mais là, par contre, il va falloir faire attention parce qu'elle est emménagogue. Ça veut dire qu'elle provoque l'apparition des règles et elle peut faire avorter. Si, si, même pas chez vous. Hein. Et elle est aussi anti-lactogène, donc elle, elle coupe le lait. Alors, le principe actif de la sauge est utilisé dans un remède. Si vous avez des bovins ou si vous avez des ovins ou des caprins que vous voulez tarir, qui s'appelle Orotar. Orotar, alors il y a trois dilutions de sauge, c'est en Roméo là, c'est possible, et ça coupe le lait. Ou si vous avez une chienne qui fait de lactation nerveuse, ça coupe le lait, ça n'enlèvera pas les symptômes psy de la lactation nerveuse, mais ça coupe le lait. Alors l'huile essentielle de sauge officinale, Salvia officinalis, est interdite à la vente parce que là, par contre, vous avez vraiment une concentration importante des principes actifs abortifs dedans. Et donc, elle est interdite. Il faut une ordonnance et encore, on n'est pas trop disposé à la faire, cette ordonnance. Hein. Vous avez aussi des plantes reminéralisantes. Alors, tout à l'heure, on vous a parlé de la consoude. Consoude, c'est Sympitum officinalis. Consoude, c'est facile à penser. Consoude. Souder les os.
Les soudes, c'est excellent.
S-O-U-D-E. C-O-N-S-O-U-D-E. L'après, l'ortie et puis le bambou tabachir que je vous cite à titre d'exemple, mais que vous ne trouverez pas dans le coin, donc il faudra absolument l'acheter si vous en voulez. Mais vous avez près l'ortie et consoude qui sont très très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on les... elles sont reminéralisantes? Ben parce qu'elles contiennent de la silice organique et donc on les utilise dans les décalcifications. Fracture, arthrose, arthrite, tendinite. Donc, par exemple, dans les problèmes de croissance de vos volailles, ça peut être intéressant de leur donner un petit peu de prêle ou un petit peu d'ortie. L'ortie étant moins toxique que la prêle donnée en trop grande quantité peut aussi avoir des petits effets secondaires. L'ortie, c'est rare que ça ait des effets secondaires. L'ortie, c'est facile à trouver, vous voyez, contient du fer, de la silice, du calcium, du potassium, c'est très reminéralisant. Elle est anti-anémique, anti-asthénique, des acides formiques et acétiques anti-goutteux et anti-rhumatismal. Alors, c'est la goutte, c'est quand on a la goutte dans les pieds, hein, la figurine.
Ça, c'est pareil, c'est l'ortie jeune qu'il faut prendre.
Oui, si possible. Oui, la
goutte, c'est chez broyer, bien sûr.
Les couper, oui.
Pas les broyer, les couper.
Sinon, c'est
séché.
Il faut les faucher.
Si, on peut les garder.
Oui, moi j'aime mieux quand c'est séché, parce qu'au moins vous avez plus le risque d'urticant.
Mais il y a les quantités, il faut les couper. Non, mais la quantité,
vous en éparpillez sur la ration et voilà, ça passe. Là, vous n'êtes pas obligé de peser. Hein, quand vous avez des... C'est comme si vous aviez du foin, en fait.
Hein, c'est... Parce que ça, c'est pas...
Non. Alors là, vous risquez rien du tout.
Voilà, ça, c'est la meilleure.
L'ortie, on coupe et on laisse sécher.
Ouais. Voilà. Évidemment, je peux faire sécher.
Et les animaux, d'ailleurs, même les bovins, quand vous avez des orties dans un...
Ils les mangent séchés, ouais.
Voilà, vous les coupez à la fond, vous les laissez, et là, vous allez les manger.
Et il y en a qui disaient se mettre les mains dans l'ortie, quand ça pique, ça fait la circulation.
Alors attendez,
on va
pas tous parler en même temps, sinon on ne s'y retrouvera plus. En fait, vous voyez, vous avez la partie anti-rhumatismale. Et effectivement, l'ortie est aussi... Alors c'est vrai qu'à une époque, on disait qu'il faut se frotter avec des orties contre les rhumatismes. C'est une technique, mais bon, ça fait un petit peu mal quand même. Hein. Mais effectivement, ça stimule la circulation du sang, ça travaille en percutané, quoi. Hein. Et le fait d'avoir cette urticaire n'est pas nécessairement mauvais pour, effectivement, libérer certaines toxines. Vous avez par exemple une technique qui n'a rien à voir avec la phyto, qui consiste à mettre des sangsues sur un endroit, par exemple, sur une articulation douloureuse, même qu'il n'y a pas d'hématome, on met une sangsue. La sangsue, elle va injecter de l'histamine, donc elle va provoquer une réaction allergique un peu à elle-même, et en même temps, elle injecte 300 autres produits qui vont travailler sur cette arthrose ou cette arthrite. Vous voyez, donc, c'est toujours la même chose. C'est l'ensemble des molécules qui va intervenir.
On fait ça, l'arthrose, l'arthrite, on met une sensu.
Oui, oui.
Ah, oui. Mmh, comment ça?
Ça marche aussi pour les grands-mères.
Le venin des abeilles aussi. Vous voyez, donc, c'est sur le même principe. On provoque une réaction histaminique, en fait. Vous voyez, une réaction allergique, quelque part, qui va effectivement modifier tout l'ensemble de la structure et de l'endroit où on a posé cette sensu ou cette
ortie. Le plus simple, c'est l'ortie quand même.
Ah ben c'est disons ce qu'on trouve le plus facilement, et puis c'est ce qui est un peu le moins rébarbatif, hein, parce que la sensu, il faut être prêt. Hein.
C'est la l'abeille aussi.
Faut l'abeille, c'est pire. Hein. Moi j'ai vu à la télévision, parce que ça j'ai pas vu, ils prennent avec une pince les abeilles là, et puis ils les font piquer. Moi tu me fais ça, c'est...
Bah, tu
vas
devant la
ruche, hein, putain. Alors, le grand bout, bon, voilà, ça tombe bien, disons. Et quand cicatrisant, donc on a le souci dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le calendula officinalis, la consoude, Saint-Phytum officinalis, la bardane. Alors, le souci est aussi estrogène-like, donc il va provoquer les chaleurs sur les mammifères. La consoude cicatrice, anti-ulcéreux, astringent, anti-inflammatoire, elle aussi contient des tanins. La bardane, c'est la grande fleur de la peau. Alors, ça marche très bien, vous voyez, antibactérienne, ça marche très bien sur les acnés juvéniles. Les gamins qui ont des gros boutons avec plein de pulls.
Ouais, bon.
Alors, c'est dégueulasse. Hein. En tisane, c'est infect. Hein. Donc, le mieux pour les ados, c'est de leur donner des gélules. Hein, parce que sinon, ils ne les prendront pas. C'est vraiment pas bon.
Bardane, acné, c'est ça.
Voilà. Alors, il faut savoir que l'acné, c'est une origine diverse et variée. Hein. Donc, c'est souvent l'alimentation qui n'est pas du tout adaptée. Puisque souvent, c'est McDo et Coca. C'est aussi les problèmes hormonaux de l'adolescence. Les problèmes psychologiques, parce qu'effectivement la peau c'est le plus grand organe de communication avec l'extérieur, donc ça me donne des boutons, l'expression le dit, hein, donc la chaleur quand on nous donne des boutons, mais la bardane marche très bien pour ces choses-là.
Et sinon, vous avez dit que sur les bovins, la bardane, elle provoque quoi?
Les chaleurs.
Non, c'est le souci. C'est le souci. C'est le souci, ne te trompe pas, parce que ça ne va pas faire la même chose.
Le souci.
Une calendula.
Voilà. C'est marqué.
Alors, par contre, sur les coups, ça marche pas.
Vous avez des plantes à profil respiratoire, vous voyez, le marron blanc.
Calmez les coups.
Tu m'étonnes, calmer les mâles.
Ça pousse aussi dans les fossés, ça.
Il y a quoi pour calmer les coques, là?
Ça en est une dont on n'a plus le droit d'utiliser dans les compléments alimentaires. Hein. Quand vous les trouvez,
exemple, le marruc blanc, là, sur un petit veau.
Oui, ça fait. Ça
quand il se passe une hypertrophie qui est tonicardiaque, ça pourrait aller, quoi.
Oui, effectivement. Mais vous allez voir cet après-midi, vous allez avoir des trucs encore plus facile à utiliser que de vous trouver du marugo blanc. Je vous dis, il est interdit au niveau des compléments alimentaires.
Mais tu as dit que c'est dans les...
Mais dans les fossés, vous en trouvez, vous pouvez en donner. Alors, si vous voulez préparer vos plantes, il faut les cueillir, bien sûr, bien les faire sécher, pour ne pas qu'il y ait de la moisissure qui se mette dedans, parce que les moisissures, ça contient quoi? Des mycotoxines. Et vous allez...
Qu'est-ce qu'on peut prendre contre les mycotoxines?
Rien.
On verra dans la journée.
Il faut nettoyer le foie, il faut stimuler le système immunitaire. Enfin, voilà.
On pourra en parler un peu. Je vais en parler dans les questions.
Oui, d'accord, on en parlera dans les questions.
Mais est-ce qu'il y a des moments plus opportuns pour cueillir les plantes? Parce que toute plante ne se cueille pas au même moment.
En fonction de chaque plante, il y a un moment opportun. Voilà.
Soleil de 13h.
Ça fait l'objet d'un
bien chaque jour.
Alors, ça dépend des plantes. C'est vrai qu'on. Dans le livre, je pense. C'est vrai que beaucoup de plantes étaient cueillies à la Saint-Jean. C'était le mois de juin, c'était la période idéale. Hein, pour beaucoup de plantes, pas pour toutes, mais pour la plupart. Alors, les plantes anti-infectieuses et qui stimulent l'immunité, vous avez le thym. Alors ça, c'est facile, hein, il suffit d'en cultiver dans votre jardin. Alors le thym, il y a plein de variétés de thym. Et puis, en fonction du climat, en fonction du terroir, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants d'un endroit s'adaptent aux plantes de l'endroit. Et les plantes de l'endroit sont adaptées aux
habitants.
Ouais. Donc, quelque part, si vous avez du thym chez vous, il va normalement devoir faire de l'effet sur vos animaux à vous. Puis, on n'est pas sur les huiles essentielles, on est sur les plantes entières.
Seulement dans les plantes qui sont chez nous.
antibactérien, antiviral, antifongique et antiparasitaire. Il a aussi une efficacité antitussive, expectorant, dyspasmodique des bronches. Donc on peut faire du sirop avec. Hein. Alors le truc, ce serait par exemple de mettre des oignons, des escargots ou des limaces dans une passoire, de mettre du sucre dessus, du thym dans la gamelle qui est en dessous, et puis après tout ça, ça va goûter dans le thym, vous aurez un excellent sirop contre la toux.
Hein. Faut pas dire aux enfants de
piquer dedans.
Qu'est-ce qu'on fait du crapaud ?
C'était quoi la recette ?
On donnait à la sorcière.
Lui, il sait tout.
Il y a du sirop avec
le... Après, il va se tromper aussi.
Il y avait du souci avec le... Voilà.
Alors, l'oignon. L'oignon, coupez des oignons en morceaux, vous mettez dans une passoire et vous mettez du sucre dessus. Le fait de mettre du sucre dessus, ça va augmenter la pression osmotique à l'extérieur de l'oignon. Donc l'oignon va transpirer. Il va transpirer ses principes actifs qui vont couler en dessous de la passoire dans la gamelle dans laquelle vous l'avez mis, sur laquelle vous avez posé la passoire. Les limaces et les escargots, pareil, ils vont dégorger et le glaire va donner un sirop contre la toux. Si vous rajoutez du thym là-dedans, ben vous avez un excellent sirop contre la toux. Après, vous pouvez éviter les limaces, vous pouvez utiliser que l'oignon, mais c'est vrai qu'il existe l'hélicidine, qui est en fait un sirop contre la toux qui est vendu en pharmacie, qui est fait à partir de bave de limaces ou d'escargots.
On sait pas quoi faire des limaces. Voilà, ça y est, on se commence à recycler.
Je me souviens d'un médicament
des limaces
contre les diarrhées sur les pivots.
Ouais.
C'était du charbon avec du mucus
de limaces. Voilà, parce que vous savez qu'il y a des recherches pour le moment sur les escargots. Pour la peau, par exemple, vous voyez. Donc, c'est le mucus qui est voilà.
Oui, on commence à
avoir un petit peu de business. Voilà, avec les escargots. Voilà. Alors, les escargots, vous mangez avec de l'ail et du beurre, c'est pas du tout le même effet.
Hein. C'est trop facile. Voilà. Je mets le thym en fond de gamelle. C'est ça, le thym?
Et l'observation de tout ça, parce que trouver des escargots au mois de janvier, c'est quand même pas facile.
Non, voilà. Après, on fait toujours la même chose, il faut toujours ou stériliser ou dans l'alcool.
Un huile essentielle, par
exemple. Non, je n'ai que la partie alcool.
En général.
Qu'est-ce que tu veux, chérie? Je veux
En général, l'oignon.
Fait une course à l'escargot, moi
j'aime beaucoup. En général, les oignons, déjà, ça fait déjà du bien. Ça suffit déjà, il n'y a pas besoin de rajouter les escargots. Un peu pour les jokes, mais bref, c'est vrai que ça marche. Alors la sarriette anti-infectieuse, fongicide, parasiticide, vous voyez, encore une fois, ça travaille sur les parasites.
Fongicide,
c'est les champignons.
C'est-à-dire qu'on pourrait l'utiliser pour les vêtements?
Oui, mais enfin, ça va devenir cher. Hein.
Non, mais je sais pas.
Oui, bien sûr. C'est un fongicide. Hein. Donc ça travaille sur les champignons. Ça tue les champignons. Pas ceux de Paris. Hein. Les champignons microscopiques. Ça stimule le système immunitaire et ça a aussi une action antidiarrhique. Alors, le problème de la sarriette, le thym déjà, mais la sarriette, c'est que c'est hyper irritant. Vous en mangez un petit peu, tout de suite, vous le sentez passer. Alors, une utilisation intéressante de la sarriette en art culinaire, c'est d'en mettre un petit peu quand vous cuisez des haricots, des flageolets, des choses qui font faire des gaz. Ça diminue l'effet gazogène des légumineuses, on va dire.
Donc, il y a moins de méthane.
Il y a moins de méthane. Hein. Et ensuite, vous avez l'équinacée. Alors ça, on n'en trouve pas chez nous, mais bon, on peut en acheter de temps en temps. Elle est immunostimulante, antivirale et antimycosique. Alors, fongicide et mycose, c'est à peu près pareil. C'est aussi des champignons microscopiques. Alors, l'équinacée, vous allez l'utiliser plus facilement en homéo. D'abord, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et en plus, elle est aussi efficace en homéopathie pour ces indications-là.
Et c'est la fleur ou c'est les fleurs?
Alors là, franchement, je t'avoue que...
Parce que c'est une fleur qu'on trouve dans les jardins, qu'on peut planter dans son jardin, c'est facile.
Donc je crois qu'il faudra qu'on achète tous le livre de... Parce que moi, c'est vrai que je ne connais pas exactement toutes les utilisations, enfin, toutes les cultures, les machins, parce que c'est très, très... C'est vrai qu'il faudrait que je connaisse tout ça. En plus, je suis d'accord, ça viendra, ça viendra. Pour la cinquième ou le sixième ou septième groupe, je le connais bien. Ensuite, on va parler des huiles essentielles. Alors ça, ça va vous plaire, ça je sens. Donc les huiles essentielles, vous allez pouvoir vous en servir tout de suite en rentrant chez vous, parce que d'abord vous allez en trouver facilement. Il vous suffit d'aller les acheter dans le bon endroit. Ne les achetez pas ni chez Jiffy, ni chez Leclerc, hein, ni sur Internet là où elles coûtent rien, parce que moins elles vont être chères et plus elles seront merdiques.
Nous on en vend de la très chère. Ça vous intéresse.
Total, c'est marqué dessus ?
Non.
C'est pour le moteur ou c'est pour l'hydraulique ?
Non. Boiron ne fait pas du tout d'aroma, thérapie. Vous avez la possibilité d'aller dans les biocoop. Ils en ont des gammes qui sont à peu près correctes. Sinon, bon, bah, je vous donne l'adresse. Ça s'appelle LCA, Laboratoire de la Condaz. LCA, Laboratoire de la Combe d'Az. Alors, j'ai pas l'adresse ici. Vous regardez sur Internet LCA, Laboratoire de la Combe d'Az, vous aurez l'adresse. Là, vous allez avoir des huiles essentielles qui seront vraiment top de top qualité.
Il faut qu'elles aient les normes HE.
Les huiles essentielles, vous ne les trouverez pas au nord, hein, vous les trouverez au sud, hein, parce que c'est là qu'il y a le plus de plantes qui contiennent des huiles essentielles.
Bah justement, par rapport à cette norme, il y a beaucoup des fois qui achètent des huiles essentielles bio qui ne sont pas forcément, ce n'est pas un gage de qualité, parce qu'elles ne peuvent pas forcément planter à l'endroit où elles sont.
Alors, déjà,
il faut qu'elles aient la norme HE.
Tout ça, c'est un laboratoire qui date, hyper ancien. Moi, je ne connais pas tout ça. Moi, je les teste différemment. Je sais que j'en ai acheté à gauche, à droite pour les comparer. Ça fait 25 ans que je travaille avec celle-là et je n'ai que des résultats positifs. Alors, les meilleures huiles essentielles, c'est quand elles sont sauvages. Donc, une huile essentielle sauvage est encore préférable à une huile essentielle bio, justement, qui aurait été cultivée de manière intensive. Parce que dans le bio, il y a tout aussi. Hein. Moi, j'ai des gens qui font du fromage de chèvre bio avec des chèvres qui ne voient jamais un brin d'herbe. Hein. Ah, vous voyez, ça ne veut encore pas dire charrette. Hein. Après, j'en ai aussi qui confondent biologique et bordélique. Donc, ceux-là, je ne vais pas non plus acheter mon lait chez ceux-là. Je préfère l'acheter chez le gars qui fait du raisonné à côté. Je sais que c'est... Voilà. Vous voyez, tout n'est pas toujours... Après,
la biologie, ça fait peur, on a raison.
Bah, surtout le bordélique. Ouais. Bah, j'ai une ferme quand même, je n'y vais plus parce que justement je me suis un peu pris la tête avec eux. Ils ont 7 gamins. La première fois que j'y suis allée, il y a un des gamins, il est sorti, il avait quoi, 2 ans. Il est sorti de son lit et moi j'étais dans l'étable avec les vaches. Il n'avait plus, donc il y avait vous avez déjà vu une étable à vache avec autour des grosses plaques avec du lait. C'est normal, ça fait partie du sport. Sauf que le gosse, il est sorti, il avait son espèce de grenouillère là, en tissu éponge, ses bottes évidemment, la gauche dans la droite et la droite dans la gauche, mais ça, bon, c'est rien. Et il a commencé à courir avec son anorak par-dessus son pyjama. Je me suis dit, il va se vautrer là-dedans, il va faire et tout va être aspiré. Bon, voilà. Mais là, je n'avais pas encore vu le tout. Hein. Je suis rentrée dans la maison et là, sur la table de la cuisine, il y avait un essaim, enfin pas un essaim, mais un rayon de miel sauvage qu'ils avaient ramassé dans les arbres. Ils avaient foutu ça au milieu de la table et puis il y avait des cuillères autour et ça faisait, je vous jure, j'ai pu retracer ce qu'ils avaient mangé depuis 8 jours. Il y avait tous les restes de tous les repas depuis 8 jours qui étaient accumulés sur la table. Et les gamins, ils passaient, ils prenaient une cuillère.
Vous avez pas fait une photo ?
Et ils étaient en plein temps, complètement.
Et ceux-là, ils étaient en plein temps.
C'est ça qui a le plus peur souvent.
Et ils habitent comme dans l'ancien temps, ils ont des armoires, des lits, vous savez, comme dans Bretagne, il y a des lits fermés là où ils dorment tous là-dedans. Il y a un bordel infâme là-dedans. Ils ont une maison qu'ils sont en train de construire, ça fait 7 ou 8 ans qu'ils sont en train de la construire. Ils veulent faire une maison en paille. Ouais. Et donc, ils ont fait des espèces de...
La structure.
Et c'est le château des courants d'air depuis 7 ans. Hein. Donc, je me suis pris la tête avec eux, parce que pour les vaches, c'était pareil. J'étais pas contente d'après. Ça ne correspondait pas à ce que moi, j'estimais qu'il fallait faire. Et je n'y suis plus jamais retournée, quoi, alors qu'ils sont à 10 km de chez moi. Et je suis connue partout, dans tout le Grand Ouest, pour les fermes bio. Quoi. Donc, Pour moi, le bio, c'est technique. C'est plus technique que technique. Si ça ne l'est pas, ça ne marche pas. Et donc, les huiles essentielles, c'est exactement la même chose. Si tu tombes sur des farfelus qui font n'importe quoi, bah...
Ah bah oui, bien sûr. Mauvaise utilisation.
Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut des grandes quantités de plantes pour fabriquer un litre d'huile essentielle. C'est ce qui explique que le prix des huiles essentielles est très cher. Il y a même certaines plantes, il faut plusieurs tonnes pour fabriquer un litre d'huile essentielle. Donc c'est obligatoirement pas bon marché. Hein? Alors, les huiles essentielles, ça va être la même chose que pour les plantes. Vous allez avoir des huiles qui ont des propriétés anti-infectieuses, donc antivirales et antibactériennes, antimycosiques, donc contre les champignons, antiparasitaires. On peut avoir des actions anti-inflammatoires, hémostatiques, calmantes, énergisantes, expectorantes. Mais il faudra les manipuler avec précaution, parce que là, ici, on a vraiment un concentré et on a des molécules particulièrement puissantes qui peuvent avoir des effets secondaires d'irritation, caustiques, voire toxiques pour le foie ou pour le système nerveux. Donc déjà, il ne faut jamais mettre d'huile essentielle sur un enfant de moins de 3 ans. La seule huile essentielle, les deux seules huiles essentielles que vous pouvez vous permettre en toute petite quantité sur les enfants de moins de 3 ans, c'est la lavande officinale. Officinale, hein. La lavande officinale ou lavande vraie ou fine.
Fine.
Et la, le titri, le Melaleuca alternifolia. Les autres, le niambier, en fait. Voilà. Les autres, non. On peut avoir des gros problèmes. Après, entre 3 ans et 7 ans, il faut encore utiliser la plus grande prudence. Les femmes enceintes ne devraient pas manipuler d'huile essentielle. Ou si elles y sont vraiment obligées, il faut absolument mettre des gants. Ceci dit, tout le monde doit mettre des gants quand il manipule des huiles essentielles. Bon, là, aujourd'hui, on va en prendre quelques gouttes, c'est pas très grave. Mais si vous utilisez régulièrement des huiles essentielles, il faut mettre des gants. Quand on met une huile essentielle sur la saignée du coude ici, à un être humain, et qu'on fait une prise de sang à cet être humain, pour l'autre bras, hein, un quart d'heure après, on retrouve l'huile essentielle dans le sang. Donc vous imaginez, si vous mettez tous les jours les mains dedans, vous êtes imbibé d'huile essentielle. Et donc, automatiquement, vous allez cumuler les effets secondaires que vous ne souhaitez pas avoir.
Les gens qui sont en distillation des huiles essentielles par la respiration...
Ouais. T'as noté les enfants là, jusqu'à 7 ans, je sais pas.
Oui,
là.
Mais j'ai entendu. Jusqu'à 3 ans, c'est niette, et après, c'est avec prudence.
Ouais, ouais.
Mais on parle de poules, là, c'est pas des animaux qui sont très mieux, ça.
Non, mais c'est pour ça que je vais vous en parler
d'accord.
Après. Alors, dès les années 70, vous voyez, Franchomme et Penuel, c'est les deux du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont étudié scientifiquement les huiles essentielles. Ils ont posé comme conclusion, les huiles essentielles ne sont pas des corps simples. Ce n'est pas une molécule, une huile essentielle. Ce sont des assemblages de plusieurs molécules qui ont chacune des propriétés particulières. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au totem des plantes. Est-ce que ça rejoint ce que tu as appris? Oui. J'espère, hein, parce que sinon, j'aurais plus qu'à faire ma valise, elle est déjà faite. Alors, selon la composition des huiles essentielles, selon les mêmes espèces, mais de variétés différentes, vous pourrez avoir des effets différents. Donc, antiseptiques et respiratoires, elles contiennent des alcools. Pas de l'alcool, mais des alcools, donc des molécules alcool. Par exemple, Eucalyptus globulus et Eucalyptus radiata ne contiennent pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Contiennent des alcools Eucalyptus globulus et radiata, sont actifs sur le tractus respiratoire. Par contre, Eucalyptus divers n'en contient pas et il n'a aucune efficacité sur le tractus respiratoire. Donc, si vous allez à la Biocoop et que vous achetez votre Eucalyptus, et qu'on vous file du divers pour faire des bromisations, pour par exemple dans un poulailler, pour les problèmes respiratoires de vos volailles, bah, ça n'aura aucun effet. Il faut vraiment prendre globulus et ou radiata. Vous avez aussi l'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné est anti-inflammatoire, mais au niveau respiratoire, c'est pas terrible. Pratiquement pas le même effet. Voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître aussi les huiles essentielles. Il y a une notion de chémotype. la même plante cultivée à des endroits différents, donc c'est ce que nous a expliqué. Alors c'est Anne, vous pouvez en souvenir, parce que je connais, j'ai vu le mari de Anne, donc je sais que voilà, il s'appelle Stéphane.
Sébastien. On l'appelle toujours Stéphane, pardon.
La même plante qui s'est cultivée à des endroits différents et récoltée à différents moments peut avoir des caractéristiques différentes.
Il y a eu le problème avec l'agent ancienne, c'est pour ça que...
Il y a le problème avec l'agent ancienne, et il y a aussi le problème avec l'absinthe.
L'absinthe aussi.
Et le thym.
L'agent ancienne.
Ça sent bon, hein. On reviendra. Enfin,
nous, on y est revenu, d'ailleurs.
Ah, voilà. Donc, génétiquement, le thym vulgaire, si vous faites vous regardez un ADN de thym, ce sera toujours le même, que vous le cultiviez dans le sud de la France, ici, dans les Ardennes, en Hollande, même en Suède, si vous arrivez à le cultiver sous le cercle polaire dans une tente, génétiquement, ce sera le même thym. Mais il ne va pas développer exactement les mêmes molécules. Le thymol, voyez, anti-infectieux mais caustique et hépatotoxique, et thuyanol, anti-infectieux non caustique et bon pour le foie. Donc vous voyez, là on est sur le même thym, cultivé à des endroits différents, il peut avoir pas du tout le même effet. Quoi. C'est quand même un peu...
Ça, on va pas le savoir si. Quand on achète notre fiole.
Si. Si.
C'est marqué dessus thym à thymol ou thym à thuyanol.
Ah, d'accord.
Alors, toujours utiliser les huiles essentielles et non des essences. Les essences sont coupées, assemblées, recomposées. Alors, la législation permet l'existence si elles contiennent 30% d'huile essentielle. Mais les autres constituants ne sont pas connus. Ça peut être de l'alcool, ça peut être de l'essence, de la pompe à essence, ça peut être des solvants chimiques, toxiques, etc. Donc, surtout, faites attention parce que donc elles peuvent être donc hépatotoxiques, le thym à thymol, dermocaustiques, c'est-à-dire caustiques pour la peau, la cannelle, la sarriette, le thym à carvacrol.
Il faut jamais les mettre directement sur la peau.
Jamais. Enfin, si vous n'en mettez qu'une goutte ou deux de certaines, par exemple le titri, il faut essayer déjà. Si tu n'as pas d'allergie spécifique, par exemple le titri, le cas alternifolia, tu peux le mettre pur, le cyste aussi. Ouais. Mais il faut essayer, si tu es allergique, évidemment, là c'est différent. Mais le thym, il faut faire gaffe quand même, ça brûle. La sarriette, ça crame. Hein. La cannelle, alors là, c'est, t'en mets, tu t'en souviens pendant un moment. Alors en plus de ça, comme c'est gras, il ne faut surtout pas les enlever avec de l'eau, parce que ça ne part pas. Ouais. Donc il faut les enlever avec de l'huile, hein, un coton imbibé d'huile pour essayer de ramasser le maximum, mais de la brûlure, elle reste. Hein. Ça peut aussi être irritant donc, pour les muqueuses digestives, si elles sont prises trop longtemps ou si on a ingéré des huiles essentielles herbocaustiques. Alors par exemple la cannelle. La cannelle de Ceylan, Cinnamomum verum, ça marche très bien sur les vers. Et ça marche aussi très bien sur les... Pardon ?
Dermocaustique, c'est quoi ?
Ça veut dire caustique pour la peau.
Ah oui, dermo. Hein ?
Dermocaustique. Elle marche très bien sur les vers et sur les parasites intestinaux, des volailles par exemple. Sauf que c'est vraiment caustique. Donc ça brûle. Donc on est obligé de les diluer dans des huiles qui vont servir de support pour diminuer la concentration d'huile qui va passer dans le tube digestif. Elles peuvent être photosensibilisantes, donc donner une sensibilité au soleil, les citrus, donc tous les agrumes. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'huile solaire qui contient de la bergamote. La bergamote, c'est un agrume. Hein. C'était d'Argini, je crois qu'il y a de la bergamote. Oui, Alors, ah ben oui, on a une connaisseuse là. Le regret contient de la bergamote, c'est un agrume. Eh bien, il y avait une huile essentielle Ambre Solaire, la marque Ambre Solaire, qui contenait de la bergamote. Photosensibilisante, ça veut dire que les rayons du soleil activaient le bronzage. Mais ça pouvait aussi faire cramer, vous voyez. Alors, neurotoxique, elle contient des cétones. C'est le cas, par exemple, de l'absinthe. L'absinthe, la fée bleue, qui rendait fou les peintres, Toulouse-Lautrec et compagnie, vous voyez. Alors maintenant, il existe de nouveau de l'absinthe que vous pouvez boire, que vous pouvez acheter. Et elle a été, en fait, la partie toxique, l'acétone, a été enlevée. Donc elle a le goût, elle a la couleur, elle a l'odeur, mais elle n'a plus sa molécule toxique qui est l'acétone. Pas l'acétone, l'apostrophe acétone, mais là, elle a plus loin acétone. L'inule, c'est c'est une huile qui coûte la peau du cul, donc vous risquez pas de l'acheter. Mais elle donne ce qu'on peut l'utiliser pour faire ce qu'on appelle le choc à l'inule. Donc quand quelqu'un a des problèmes respiratoires et beaucoup de mucus qui reste à l'intérieur, on lui fait un embaumement à l'inule. Donc c'est-à-dire on frotte au niveau des veines, là et là. Et il va cracher des quantités de glaire importantes. Quoi. Ah oui. Moi, je l'ai utilisé une ou deux fois sur des veaux qui avaient des RSD, là, et qui étaient là, et puis qui étaient en train de classer. Mmh. Bah, c'était impressionnant, hein, comment ils ont craché du mucus. Mais bon, je vous dis, ça coûte hyper cher. Hein.
Voilà, c'est plus efficace. C'est plus facile, pardon. C'est plus efficace que certains médicaments.
Ah ben, les huiles essentielles, c'est...
Parce que là, si vous dites que vous, il réagit directement, il n'y a rien. Je ne pense pas qu'il y a aucun médicament.
Et les gens,
c'est hyper puissant, mais par contre, ça coûte cher. C'est dangereux. Ah,
mais ça, c'est une chose.
Oui, mais ça, c'est assez difficile à utiliser, d'accord. Parce que justement, encore une fois, c'est pas les petites recettes de cuisine qu'on trouve dans les revues. C'est d'ailleurs terrible, ça, parce que ça va décrédibiliser, au bout du compte, ça va finir par décrédibiliser l'utilisation des huiles essentielles. Donc, ils sont en train de réfléchir pour les rendre obligatoires sur ordonnance. Et autant je ne suis pas toujours d'accord, autant ce serait peut-être pas plus mal d'éviter les automédications intempestives. Parce qu'on en voit vraiment partout.
C'est un business.
S'ils mettent en place un système comme ça, bon, bah, après, il faut que les vétos soient formés et qu'on puisse vous faire des ordonnances.
Et puis, à la fin, vous pouvez aller acheter son huile essentielle à la bio.
Ah non, ce sera fini, ça.
Il y en a déjà, de toute façon. Il y en a, on ne peut pas le trouver en France. Mais bon,
l'absinthe, vous voyez,
c'est le bon sens qu'il faut prescrire.
L'absinthe, c'est vraiment aussi.
Ah oui, c'est fou, hein.
Et pour lutter contre la connerie, il faut.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands peintres, les grands génies artistiques, que ce soit des peintres, des musiciens, tout ce qu'on veut, même des grands génies parfois scientifiques, sont souvent des gens qui ont déjà une prédisposition à être psy, donc à avoir un cerveau qui fonctionne différemment de celui du Vugum Tecus. Hein. Donc déjà, ils ont déjà une prédisposition un peu. Et en plus, ils ont une prédisposition morbide pour devenir accro à des choses toxiques. Et donc là, ils vont en plus piocher dans des trucs graves, quoi. Donc ça leur fait péter un câble complètement, quoi. Donc, c'est vraiment
et le problème, c'est que l'absinthe a été plantée plus en plus de demandes, donc elle a été plantée plus en plus vers le nord. Voilà. C'est là qu'elle a dégagé ses toxines.
Plus toxique, comme le thym, exactement le même principe.
L'absinthe, la culture est réglementée ou l'interdite ?
Hein ?
Pardon. La culture est réglementée ou l'interdite ?
Ah, la culture dans certains endroits, normalement, est maintenant interdite. Mm. C'est vrai que l'absinthe du sud, elle a raison, Anne. L'absinthe du sud, c'est comme le thym, était moins toxique que l'absinthe du nord. C'est pour une question d'ensoleillement, de terroir, de climat, etc. Le fait qu'il fasse plus froid, qu'il y ait moins de soleil, concentré en plus grande quantité, les molécules, les cétones. Et comme c'est une distillation, eh bien, ça multiplie les risques. Alors l'inule dont je viens de vous en parler, l'anis. Alors l'anis, c'est celui qui sert à faire le pastis, c'est exactement le même principe.
C'est l'anis étoilé.
Voilà, non, c'est l'anis vert, c'est pas l'anis étoilé. L'anis étoilé, c'est la badiane. La badiane est un vente libre.
C'est où 13.
Pas fin de la page.
La badiane est en vente libre, ça fait vraiment comme des petites étoiles. Et puis vous avez la sauge officinale qui est abortive, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi le cèdre, l'hysope et le thuya, qui sont aussi interdites à moins d'une prescription médicale. Mais je vous dis, il n'y a pas grand monde dans le monde médical qui a envie de prescrire ça. Hein. On ne sait jamais comment les gens vont s'en servir.
En huile essentielle, alors.
Oui, en huile essentielle.
L'isope, ça se fait monter.
Alors, les dosages. Donc, les dosages pour la cytose, pour les complexes, vous vous référez aux indications du fabricant, parce que si vous avez acheté un produit complexe, dessus c'est marqué comment l'utiliser, donc vous l'utilisez d'après ces indications, c'est normal. Pour les unitaires, je vous ai mis donc 50 grammes pour 1000 kg de pois vif. Pour les teintures mères et les solutés de 100 ml à 1 litre pour 1000 litres d'eau, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et l'aroma par voie orale, on dilue les huiles essentielles à 10% dans de l'huile de tournesol, et ensuite on administre à raison de 50 à 100 ml pour 1000 litres d'eau de boisson. Cette utilisation-là, je ne la recommande pas du tout. Moi, chez les volailles, je n'ai aucun recul là-dessus. Je n'ai jamais aucun éleveur qui ne l'a utilisé. Moi, je préconise plutôt des diffusions dans l'atmosphère quand c'est possible, quitte à les pousser un petit peu dans un endroit un peu plus clos pendant qu'elles, s'ils sont malades, de toute façon, il faut les soigner. Donc, on ne va pas les laisser courir sur 3000 mètres carrés s'ils ont des rhumes ou des chiasses, qu'est-ce que je sais, moi. Alors, l'huile essentielle dans l'huile de tournesol, ça marche très très bien pour tout ce qui est mammifère, ça marche super bien. Hein, donc que ce soit les
pourquoi boutons. Le tournesol?
Alors, pourquoi le tournesol? Parce que si vous prenez par exemple de l'arachide, c'est allergisant. Donc vous allez avoir un problème d'allergie, à risque d'allergie. Après, vous pouvez peut-être utiliser du colza, je ne sais pas. Moi, j'utilise du tournesol parce que c'est ce que je trouve le plus facilement autour de chez moi. Je prends de l'huile bio. Ah bah oui, quand même.
Parce que le, comment, enfin, l'huile industrielle...
Ah bah non, non, je ne prends que du bio, moi. Pour ça, pour l'huile de mélange.
L'huile industrielle, c'est des lubrifiants.
Ben bah voilà, justement. Même moi, j'en utilise pas pour moi, alors je ne vais pas l'utiliser pour les animaux que je soigne. Surtout
non, mais parce que l'huile de tournesol, elle a un pouvoir pénétrant
oui,
plus fort
aussi, voilà.
Que l'huile de colza, par exemple. Voilà. Mais une huile de cameline ou une huile de chanvre va bien aussi.
Alors après, c'est aussi une question de prix. Voilà. Si vous en produisez et que vous l'avez,
Non, mais si tu l'utilises, toi, sur des humains...
Une huile de cameline, de quoi?
Cameline.
T'as quoi?
Cameline.
Cameline. Je vois ce que c'est.
Alors, regardez, j'ai mis voie orale.
Qu'est-ce que sur la voiture?
Alors, c'est sûr que pour, si vous voulez le mettre sur la peau, vous pouvez utiliser une autre huile. Vous pouvez utiliser de l'huile de macadamia, de l'huile de noyau d'abricot, de ce que vous voulez, moi je m'en fous. Effectivement, vous voulez avoir un pouvoir pénétrant à travers la peau. Moi, j'utilise l'huile de tournesol, c'est celle qui me donne, à moi, dans ma région, les meilleurs résultats. Effectivement, il y a un pouvoir de pénétration. Donc, vous allez avoir un effet actif, une action au niveau du tube digestif, dans la lumière du tube digestif, donc dans la partie, dans le tuyau, hein, là. Et vous allez aussi avoir une résorption vers l'organisme, comme si vous l'aviez mise sur la peau. Donc, par exemple, un animal qui a une diarrhée infectieuse, vous allez avoir une action sur, on va dire, les colibacilles au niveau du tube digestif, et en même temps sur les colibacilles qui se seraient éventuellement baladées, qui se seraient éventuellement mis à se balader dans l'organisme et faire une septicémie. Si vous voulez avoir une action uniquement dans le tube digestif, uniquement dans la lumière du tube digestif, et bien à ce moment-là, vous prenez une huile qui n'est pas absorbée du tout et qui s'appelle l'huile des paraffines. C'est pas bio du tout, mais là, vous aurez aucune pénétration, enfin, l'organisme ne va pas absorber l'huile. Il y aura un petit peu d'huile essentielle qui passera, mais beaucoup va rester dans le tube digestif. Mais pour être, comme je ne sais jamais à l'avance qui va venir me chercher mon complexe d'huile essentielle que je leur prépare à l'avance, bah je mets tout le monde à l'huile de tournesol. Pour le moment, j'ai de très bons résultats.
Ouais. Là, je l'huile de vidange, non?
Ah ben, figure-toi que celle-là, on me l'a faite. Non, à Zeto m'a dit, un jour, j'ai travaillé très très peu chez un autre Zeto entre l'Aisne et le Maine-et-Loire. Et j'utilise, moi, les huiles essentielles en chirurgie sur les chiens et les chats en permanence. Deux ou trois huiles, mais voilà. Et puis en diffusion, un peu dans le cabinet et tout. Et il m'a dit, ouais, t'as encore utilisé tes huiles de vidange. Oh ben dis donc, j'étais pas contente. Hein. Je suis pas restée longtemps chez celui-là. Hein. Voilà, donc pour les volailles, ma foi, pourquoi pas, pour les problèmes digestifs, etc., vous avez vos propres volailles, donc vous pouvez, pourquoi pas, essayer. Alors, par contre, c'est de l'huile, hein, donc ça se dilue mal dans l'eau. Alors, il y a une technique
pour diluer les huiles essentielles. Dans l'alimentation ou non?
Oui, alors, il y a une technique pour diluer les huiles essentielles dans l'eau. C'est de les diluer d'abord dans de la poudre de lait, type régilet. Je vais mettre quelques gouttes sur le régilet. Et ensuite, ça se mélange dans l'eau.
Mais directement dans l'alimentation?
Oui, mais enfin, si tu mets, imagine, tu mets, je sais pas, 50 kilos d'alimentation pour tes volailles. Et tu vas prendre 10 ml d'huile essentielle. Et tu mélanges. Tu n'es pas du tout sûr qu'il y en ait partout dans ton alimentation. Tu comprends? Il vaut mieux que tu prépares une solution que tu disperses sur ton alimentation. Quitte à la diluer dans de l'huile, d'abord, et puis à prendre à pulver, et puis à pulvériser sur l'alimentation en faisant ton mélange régulièrement. Parce que si, ce qu'il faut bien, c'est qu'il y en ait partout.
Et en brumisation?
En brumisation, ça marche bien. Brumisation et aérosol, etc., ça marche très bien. Il faut savoir aussi que si vous avez un problème digestif et que vous brumisez de l'huile essentielle, ça peut avoir un effet sur le problème digestif. Vous n'êtes pas obligé de le prendre par la bouche.
Il y a des huiles essentielles qu'elle ment.
Ça va encore.
Oui, ça va. Ouais.
En humaine, souvent ce qu'on fait quand on n'ose pas le mettre sur la peau de quelqu'un ou lui faire avaler parce qu'on ne sait pas trop comment il va réagir, on en prend un peu sur les doigts et on le diffuse comme ça autour de la personne.
Ah bon,
en direct. Ça marche super bien.
Vous faites un film
de pompe ? Ah ouais, ouais. Non, mais je ça marche très bien. Diffuser des huiles essentielles dans la chambre d'un malade, ça va avoir un effet assainissant pour l'atmosphère, mais aussi pour le patient. Alors, on ne diffuse jamais une huile essentielle quand la personne est déjà dans la chambre.
On diffuse avant, une heure avant.
Et après, on met la personne.
Une heure avant.
Si vous diffusez pendant, c'est... ça prend un peu à la gorge. Hein.
Je vais revenir à la dilution de l'huile, là, j'ai pas trop compris. La poudre d'huile,
oui. Alors,
mais après il faut réhumidifier la poudre d'huile.
Après tu mets dans l'eau.
Parce que si par exemple je veux apporter à mes volailles quelques gouttes d'huile essentielle par rapport aux gouttes que j'ai, que je veux le faire en sec, que je veux le faire dans l'eau de boisson, je remets mon lait dans l'eau de boisson.
Voilà, alors ce que tu fais, tu vas par exemple, tu veux, mettons, traiter, je sais pas moi, 100 volailles, on va dire. Tu dis, moi, pour mes 100 volailles, je peux utiliser, allez, on va dire, 3 ml d'huile essentielle de titri, 3 ml d'eucalyptus globulus, et on va mettre un peu de ravintza parce qu'il y a un lait dessus. Voilà. Eh bien, tu vas prendre tes huiles essentielles, tu vas prendre un petit bol avec de la poudre de lait, par exemple, régilet, tu mets tes huiles essentielles dans ton régilet, et ensuite, tu dilues ça dans de l'eau.
D'accord.
Et après, c'est cette eau-là que tu vas mélanger dans ton alimentation, ou dans ton abreuvoir, ou dans ta pompe d'eau.
Une petite quantité de régilet, quoi.
Un petit fond, voilà. Et si vous voulez prendre un bain avec des huiles essentielles, c'est le même principe. Au lieu d'acheter des trucs super chers, dispersants, machin, un petit peu de régilet dans un petit bol, quelques gouttes d'huile essentielle, sous le robinet de la baignoire, et ça se dilue dans l'eau, et ça évitera que vous ayez un espèce de bouillon de poule, avec des yeux comme ça, des yeux de graisse qui se baladent dessus.
C'est l'action quoi là, c'est la caséine, c'est...
Non, c'est, c'est l'ensemble de la poudre de lait qui absorbe et qui permet la redilution. Comme ça,
que je suis en train de faire un lien, ça c'est le défaut. Dimanche, je refaisais une peinture sur un crépi dans mon gîte, là, et j'ai des taches d'humidité qui reviennent, et je me suis rappelé qu'il y a un maçon qui m'a dit « Tu bloques tes taches d'humidité avec du lait. »
Oui.
Alors, c'est à cause de la caséine du lait, en fait, que ça bloquerait...
Ah oui, là, je suis d'accord, c'est la caséine. Alors, moi, la poudre de lait, c'est un dispersant.
Mais pourquoi pas dans du lait?
Parce que ça n'a pas du tout le même effet. Parce que si tu mets du lait dans de l'eau...
Si tu dilues.
Non, mais je suis d'accord. Oui. Mais moi, ce que je sais, c'est que la poudre est facile à garder. Chimiquement, ça se disperse direct. C'est sec, ça se disperse direct. Tu sais bien, quand tu fais du lait avec la poudre de lait, moi, je n'utilise pas beaucoup ça parce que j'aime pas ça. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé de moins toxique et de plus pratique pour le faire.
C'est l'équivalent du glycol qui, d'un côté, est capable de s'accrocher sur la flotte et de l'autre côté sur le lait. Sinon, les deux ne sont pas compatibles.
Quand tu mets de l'huile essentielle sur le lait,
l'huile essentielle est très large. Pour laver ta vaisselle, par un bout, elle peut s'accrocher sur de l'huile et par l'autre bout, sur de l'eau. Et la caséine fait la même chose. Sinon, ça se repousse.
Et de battre ton lait très très fort pour que ces deux graisses se mélangent.
Prends une goutte d'eau, tu le poses sur une feuille, ça fait une bulle. Ça fait
Et d'accord, votre huile est
formidable. Non, c'est la
bouillante.
Voilà. C'est de la poudre de lait, en fait, tu achètes ça au lait. Ça existe en bio. Tu peux diluer dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide. La poudre de lait, ça se dilue aussi dans l'eau froide. Il faut juste un peu secouer. Mais tiède, ça marche. Hein.
C'est la poudre.
Ça sent bon.
Alors, donc là, j'avais dit les diarrhées des veaux, mais c'est pareil pour les volailles. Hein. Vous pouvez lutter, par exemple, contre les parasites de type crypto ou coccidiose. C'est l'huile essentielle d'origan, de sarriette et de cannelle qui vont être les plus efficaces. Manque de peau, c'est aussi celles qui sont les plus agressives. Hein? Donc c'est pourquoi je vous dis, il faut vraiment être prudent parce que ça peut vous en mettre 2-3 dans les choux. Quoi. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut bien les diluer avant. Parce que déjà, ça brûle au passage, mais ça brûle aussi plus bas. Par contre, elles sont hyper efficaces. Alors, j'ai un copain qui fait du pigeon voyageur et qui utilise ça pour les trichomonas là, dans les jardins, pour ses pigeons. Alors, il en met un petit peu, il les dilue un peu, il les met sur un coton-tige et puis il va farfouiner dans ses piafs, parce que lui, c'est des pigeons qui veulent. Hein, et il les tue comme ça, ces bestioles. Donc, vous voyez, par exemple, un mélange là, 5 ml d'huile essentielle d'origan, 5 ml de sarriette des montagnes et 5 ml de cinnamomum verum. On mélange dans 235 ml d'huile de tournesol. Et là, on était sur des veaux. Hein. 10 ml matin et soir à chaque veau pendant 3 à 5 jours. Ça, c'est un mélange que je prépare à l'avance pour mes éleveurs. Et ils viennent l'acheter tout prêt. Parce que moi, j'ai plein d'éleveurs qui ne suivent pas de formation, mais qui savent que je fais ce genre de truc. Et je leur vends ça dans des petites bouteilles. Je ne fais jamais plus que ça hein, en quantité. Parce que ça a tendance à rancir, à s'évaporer, etc.
Mais c'est ça, combien de temps ça se...
Bah là, une fois que c'est bien fermé dans un récipient opaque, hein, enfin foncé, oui. Ça se garde quand même de 3 mois.
Ok.
Hein. Et ils viennent me les chercher, et il y en a qui ont remplacé des médicaments très toxiques, type, je ne sais pas si vous connaissez, la Locure, le Velcoxan, le Pecox, avec ça. Donc ça, je vous en ai amené pour vous montrer. Hein. On ne va pas les ouvrir, parce que du coup... Mais je vous ai amené tout ça là, on regardera à midi, je vous ai amené des petites...
Des midi et quart,
tu dis des midi et quart.
J'ai quand même répondu à des questions problématiques.
Oui, c'est bien.
Surtout ça fauche.
Donc, anti-infectieux digestif, vous avez les trois précédents. C'est un linol, le titri et le ravintsara. Alors faites bien attention, là, ici je vous ai mis cinnamomum verum. Ça, c'est la cannelle de Ceylan. C'est la vraie cannelle.
Cannelle
donc, il faut
de
vraiment faire attention. Il y a aussi une cannelle de Chine qui coûte moins cher, mais qui est moins efficace.
Cannelle comment vous avez
de Ceylan.
C'est Ceylan.
Et ensuite, vous avez ici, vous voyez, le Ravintsara et le cinnamomum camphora. Il ne faut pas confondre avec le Ravintsara. Qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à bien prendre les noms latins quand vous achetez votre huile. Hein? Alors, le Ravintsara, il est bactéricide, antiviral et il stimule le système immunitaire. Cette huile, le Ravintsara, marche très bien sur les grippes humaines. La grippe qu'on a eue là il y a 2 ans. Ouais, vous mettez un peu sur les plis du poignet là, ou du coude, ou même en diffusion, comme je viens de le dire, autour de soi. Hein. Les pathologies respiratoires, vous aurez le cyprès, le serpolet, le thym à thymol, les fameux eucalyptus, le pin sylvestre, le laurier, le miaouli, la Ravintsara. Et pour les toux spasmodiques, vous ajoutez de l'estragon. L'estragon est une huile qui est très antispasmodique. Alors, pour ceux qui ont des bovins qui doivent mettre bas, des génisses par exemple qui doivent mettre bas, quand elles ont un spasme du col ou qu'elles ont la vulve qui ne se dilate pas bien ou le col qui ne se dilate pas bien, vous mettez un gant, vous prenez 2-3 gouttes d'huile essentielle d'estragon, vous entrez dans le vagin de la bête. Et vous allez masser le col avec les gouttes d'estragon. Ça dilate instantanément le col et la vulve et le velage se passent beaucoup mieux.
C'est on ne pourrait pas le faire chez les
poules pour les mettre
chez les femmes. Oui,
les sages-femmes le font. Hein.
Ah bon.
Alors elles ne massent pas le col, mais elles diffusent un petit peu d'estragon dans la. On peut le faire. Les
sages-femmes
les utilisent.
Ça commence. C'était avec quoi l'estragon ?
Oui. Anti-spasmodique. Alors donc comment faire ? En aérosol, vous mélangez les huiles dans un support alcoolique ou aqueux et vous utilisez un brumisateur. Je vous ai mis la recette d'un aérosol tout en fin de polycope. Donc vous l'aurez à la dernière page du polycope, vous avez un aérosol. Enfin, je vous ai expliqué comment fabriquer un aérosol. Pour des grandes quantités, parce que bon, nous dans notre petit aérosol dans la cuisine. On peut mettre quelques gouttes, et puis voilà. Mais quand on a un grand bâtiment ou quand on a beaucoup d'animaux, il faut pouvoir un peu diluer tout ça. Donc, je vous ai mis une recette. Vous pouvez aussi masser donc avec des huiles dans de l'huile, donc olive, tournesol, cameline, abricot, macadamia, ce que vous voulez. au minimum le thorax des animaux, voire au-dessus du garrot. Après, il y a aussi des utilisations d'huile essentielle pure. Et je pense que ça, tu as dû certainement apprendre ces deux jours. On en met à la face interne du jarret, on en met à la veine fémorale, on en met sur les yeux, côté du garrot, etc. chez les bovins. Après, sur les poules, commencer à masser chaque patte de poule avec une huile, ça me paraît pas évident.
On y masse avant de mettre dans le four, c'est aussi.
Voilà. Et si vous les utilisez par la poule, donc je vous ai expliqué le principe de l'huile de tournesol ou de l'huile de titre. Bon, bah écoutez, on va arrêter parce que dans 5 minutes, il va.
Ah non, c'est intéressant, on peut continuer.
Non, c'est vrai.
Non, c'est bien.
Alors, c'est comme vous voulez. On peut faire question-réponse ou on peut aussi continuer le cours. Hein. Bah, je suis là pour vous. Hein, donc,
C'est presque aussi dans ce que le labo. Quoi. Hein ah, c'est vrai. Hein. Non, c'est quoi bien. Hein, c'est une bonne formation, franchement.
Moi, j'aurais bien évacué l'histoire des questions, la demi-heure qu'on devait consacrer aux questions-réponses sur des problématiques.
Oui.
Plus spécifique, peut-être.
Propre à chacun. Moi, je trouve que c'était pas mal, quoi.
Oui.
Que ça soit pris en compte par l'intervenant.
Mmh. C'est puis à un moment donné, ah ben d'y apporter ça, hein,
ou l'après-midi ou directement une.
Bah à ce moment-là, on peut peut-être faire ça en début d'après-midi. On continue là et après le repas, on fait une demi-heure question-réponse. Mmh. OK Comme ça, on finit ça et après, on attaquera le bio pour finir la journée. Donc, je vous ai mis quelques huiles là, pour leur spectre d'action. Donc, vous avez le titri. Donc, Melaleuca aeternifolia, c'est le titri. Donc, celle-là, c'est une que vous pouvez avoir tout le temps chez vous. Elle n'est pas toxique. Ça marche sur beaucoup de choses. Alors, elle est anti-infectieuse. Elle est cicatrisante. Vous pouvez la mettre directement sur des plaies, elle n'est pas irritante. Alors, même si vous ne soignez pas chaque plaie, chaque petit bobo, sachez que chez vous, dans votre armoire à pharmacie personnelle, c'est hyper important d'en avoir. Dès que vous vous faites mal, dès que vous vous blessez, si vous avez une coupure, une griffure, un clou, un machin, vous nettoyez à l'eau oxygénée pour enlever les spores de tétanos éventuellement. Et vous mettez une ou deux gouttes d'huile essentielle de titri.
Titri.
C'est
titri.
Vraiment incroyable.
C'est tétanos.
T-E-A-T-R-E-E.
Non, je ne suis pas vacciné. Tétanos. Donc nettoyez l'eau oxygénée. Ça.
Titri.
Titri.
Voilà, c'est comme le tea. Pas comme tea. Donc c'est vraiment l'huile essentielle qu'il faut que vous ayez toujours chez vous.
Hein?
La lavande aussi.
La lavande officinale aussi. Mais on va continuer. Le ravintzara, donc on en a parlé, donc c'est cinnamomum camphora. Donc ça aussi, c'est important que vous en ayez. L'eucalyptus globulus ou radiata, donc c'est deux huiles essentielles différentes. Donc vous avez l'une ou l'autre, ou les deux, c'est comme vous voulez. C'est hyper important pour le système respiratoire. Le pain sylvestre, parce que ça va stimuler les surrénales. Donc chez un animal de taille importante, ou chez nous, on peut masser les surrénales, qui se trouvent ici, surrénales, donc les reins, les organes reins, qui sont beaucoup plus hauts que ce que vous croyez. Hein. La région des reins, dans le dos, vous appelez ça ici la région du rein, d'accord? Là, j'ai mal aux reins. Hein. Par contre, les reins, ils se trouvent ici.
Ah oui. Okay.
Et les surrénales, elles sont sur le rein, surrénal. Donc vous allez avoir ici une action de stimulation des surrénales. Ces surrénales, elles produisent quoi? Il est tantôt de passer à table. Les surrénales, elles produisent quoi? Elles produisent le cortisol qui se trouve, qu'on fabrique nous-mêmes, qui est en fait la cortisone, mais qu'on fabrique nous-mêmes. Et donc vous allez provoquer une réaction de l'organisme face à une pathologie, un stress. Là, on a besoin de cortisol. Il n'en faut pas trop, mais il en faut un peu. Et quand on est malade, souvent, les surrénales, elles sont dans les choux. Alors, on n'a plus envie de bosser. Ben là, on les oblige à bosser un petit peu. Donc cette réaction va permettre à l'organisme de reprendre un peu de tonus et d'être en meilleur état pour lutter contre le problème. Ce pain sylvestre, ben, comme vous le savez, hein, le pain des Vosges, hein, les bonbons au pain des Vosges, a aussi une activité respiratoire. L'estragon, ça a une excellente activité antispasmodique. Donc là, je vous avais marqué hein, pour le vagin, le col, mais c'est sûr sur les poules et les poulets de chair encore plus, je sais que ça n'aura pas d'intérêt. Par contre, si vous, vous avez des problèmes ou respiratoires ou digestifs, l'estragon, ça marche très bien. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'aller vous masser le col, n'est-ce pas, mesdames? Il suffit de masser un petit peu autour du plexus solaire, là, ou de diffuser autour de vous, ou d'en prendre une goutte. Alors nous, si on doit avaler une goutte d'huile essentielle, il y a un truc très pratique. Si on n'a rien sous la main, on a toujours un peu de miel ou un sucre. On en met une goutte dessus.
C'est pas bon de mettre ça avec du sucre.
Moi, j'ai déjà mis directement.
J'ai déjà entendu des trucs qu'il fallait pas le mettre.
Alors, on ne peut pas prendre d'oméo avec de la menthe non plus. Alors, si tu soignes tes poulets à l'oméo, puis qu'après, ils vont becquer de la menthe, qu'est-ce que tu fais, quoi?
Alors, c'est des conneries, tout ça.
Bah, oui, c'est un peu des conneries.
C'est vrai, ça, c'est des conneries.
Ouais. Ça, c'est vrai.
Moi, et le fait de toucher l'oméo avec les doigts, c'est pareil, c'est des conneries.
Et ça, par contre, il y a une petite astuce de fabrication. C'est qu'en fait, pour fabriquer les granules d'homéopathie, on fabrique, il y a des petites billes de lactose, c'est du lactose. Hein. Et donc, ces petites billes, elles sont dans une espèce de grosse boule, si vous voulez, comme un peu les boules de loto, là. Donc, elles tournent là-dedans. Et il y a une pulvérisation du remède homéopathique dessus. Donc, quand vous touchez avec les doigts, vous risquez d'enlever une partie du remède qui a été pulvérisé dessus. Alors, dans le temps... C'est vrai que la pulvérisation n'était pas très puissante, donc ça restait vraiment en surface de la petite bille de lactose. Encore que maintenant, avec les nouvelles technologies, la pulvérisation fait rentrer beaucoup plus le remède à l'intérieur du granule, donc on en enlève moins. Mais quand on peut éviter, c'est mieux de toucher. D'accord. C'est pas pour la personne qui touche, c'est pour la personne qui reçoit.
Quand tu fais prendre des granules à un petit veau ou une bestiole qui bouge, je dis pas, t'es là avec ton truc, si t'as une vache...
C'est hyper facile.
Tu l'y mets sous la lèvre.
Non, c'est hyper simple. Il suffit que tu prennes une seringue. Une seringue normale. Ouais. Tu coupes la partie où il y a la pointe. Tu vois, enfin, si tu veux, j'irai chercher une seringue. On coupe cette partie-là. Tu gardes le piston. Tu le tires vers le bas. Tu mets tes granules dans ta seringue. Tu mets ta seringue dans la gueule du veau entre les...
Non, mais il faut qu'elle soit vers le bas.
Mais non, t'en fous. Tu mets la joue et les dents, et plop, et tu envoies tes granules dans la gueule du veau, c'est bon. Tu sais, quand tout à l'heure on va devoir donner des granules à des poules, on ne peut pas courir après chaque poule pour lui mettre un granule sous la langue. Ou tu le dilues dans de l'eau et tu lui fais avaler. Dans ce cas-ci, ça marche par la... Ça va rentrer par les muqueuses.
Si. Et que si c'est une femelle, on peut lui mettre dans la muqueuse.
Tu peux lui mettre dans le vagin. Alors, pour finir en beauté par rapport au vagin et aux troubelles, sachez que les muqueuses vaginales et les muqueuses rectales sont encore plus efficaces pour absorber les médicaments que la muqueuse buccale.
C'est pour ça que les suppos sont beaucoup plus efficaces.
Voilà. Et il y a une technique qui est utilisée par les jeunes maintenant pour se bourrer la gueule facilement à moindre frais. C'est d'imbiber des tampax avec les alcools dont ils ont envie et de se les coller à l'endroit adéquat. Les filles dans le vagin et les garçons dans le trou de balle.
C'est pas vrai.
Les ados là-haut,
c'est bon. C'est bon.
Bah alors, pour souffler dans le ballon, je mets où?
C'est bon. Vous voyez que la muqueuse est hyper.
Vous connaissez pas ça?
Alors après, il y a la voix de l'œil aussi, mais bon, c'est une technique qui est utilisée à la place du beach drinking.
Moi, il m'avait dit de faire des solutions muqueuses aussi.
Oui. Tout à fait. Oui, voilà. Alors justement, les solutions aqueuses, donc ils nous expliquent, vous voyez, ça marche super bien, donc ça marchera aussi sur vos volailles si vous avez un grand nombre d'individus. C'est qu'en fait, on dilue les granules dans de l'eau, on les met dans un pulvée, alors si vous n'avez pas beaucoup d'animaux, un petit pulvée à main. Si vous avez beaucoup d'animaux à pulvée, quand vous pulvérisez les arbres, ou les mauvaises herbes, donc vous ne prenez pas le même pulvée pour le
rendu. On ne prend pas de rendu de toute façon.
Et vous pulvérisez sur les naseaux, donc chez les bovins, on fait sur les naseaux. Oui. Chez les petits cochons, on pulvérise carrément en essayant de viser à peu près la gueule, quand même. Mais vous pouvez aussi pulvériser dans l'atmosphère et ça va rentrer. Hein. Donc les huiles essentielles, ça ne pose aucun problème. L'homéo, moi, je fais diluer, par exemple, mes 100 000 poules pondeuses, là, tu penses bien qu'ils ne vont pas aller donner un granule à chaque poule. Non. Donc, je fais faire des dilutions avec des tubes entiers de granules dans des litres et demi d'eau, et puis je me sers de ces litres et demi d'eau à diluer dans 1 000 litres, par rapport à 1 000 litres, et on passe ça dans les pondeuses. Tu vois, et ça marche super bien.
Donc dans le dans l'alimentation dans le
système d'abreuvoir.
Dans le système d'abreuvoir.
Ouais. Ouais, oui. Oui. Alors le problème des abreuvoirs pour les volailles c'est très bien parce qu'on est sûr à peu près que toutes les volailles vont boire à peu près voilà. Par contre pour les animaux de plus grosse taille type les vaches qui ont des abreuvoirs avec des niveaux d'eau là et puis où ça se remplit sans arrêt. Là je suis pas trop fan parce que du coup la première vache elle va plus boire et puis la suivante elle aura plus grand chose.
Oui, oui. Oui, mais dans tes granules alors du coup est-ce que tu changes la dilution de base.
Oui, elle se change. Mais ça, c'est pas grave, parce que je vais te dire un truc. Bon, on en reparlera cet après-midi, mais de toute façon, voilà. Nous, en France, on travaille entre la 4CH et la 30CH.
Oui.
On n'a pas le droit d'aller au-delà. C'est légal, on n'a pas le droit. En Italie, la première dilution qu'ils utilisent, c'est la 30CH. Ils montent à 200CH.
Okay.
Donc pour eux, 30CH, c'est une basse dilution. Pour nous, 30CH, c'est une haute dilution. En Allemagne, on utilise des DH, c'est-à-dire on dilue 10 fois moins que chez nous. Et ça marche aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'homéopathie, on n'est plus sur l'aroma, on est sur l'homéo, et on est un peu en avance au programme de cet après-midi, tant mieux, on fera plus vite. On ne transmet pas une matière active, on transmet une information.
Ah, oui. Attends, faut que je note ça.
Non, mais tu le noteras tout à l'heure.
En homéopathie, c'est bon, je te l'ai redonné.
Oui, donc du coup, c'est pas grave si on a 800 litres, le 1000 litres ou 1200
litres. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut, c'est d'avoir vraiment quand même dans la tête une espèce d'échelle de valeur, parce que c'est la synergie entre ce que tu vas avoir programmé dans ton action et ce que tu vas demander qui va être important. C'est-à-dire, on va utiliser les basses dilutions pour les trucs très physiques, les moyennes dilutions pour les choses ambivalentes, physiques et psychiques, et les hautes dilutions pour les trucs psychiques. Mais chez nous, 30CH, c'est haut. Alors, pour vous dire à quel point c'est exact, à quel point ça peut avoir une importance, alors c'est ça, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure d'écouter là et pas là, parce que sinon, voilà. Ouais. J'ai eu une veto italienne qui est venue au cabinet faire un stage. Et donc, elle était employée, cette veto-là, chez un confrère qui n'habite pas très loin de chez moi. Et elle me dit, est-ce que je pourrais faire un stage chez toi et tout, machin, ça m'intéresse, etc. Bon, d'accord. Et quand j'en ai un cours à des kinés, des ostéopathes et tout ça, j'ai dit, écoute, tu viens au cours comme ça, d'homéo, comme ça, en même temps, voilà, ça te permettra d'avancer. Et alors, elle me sort, oui, j'ai vu un chien, mais j'aimerais bien que tu le vois parce qu'il a un problème de peau. Et je lui ai donné sulfure, donc le remède sulfure, en 30CH. Je dis, mais attends, mais tu vas me le tuer, ce chien, c'est pas possible, quoi. Elle me dit, mais non, mais c'est une base dilution, 30CH. Je lui ai dit, non, attends, chez nous, c'est la plus haute qu'on peut utiliser. Et effectivement, le chien, je te jure, on l'a rattrapé par les pointes des ongles. Hein. Il était, mais c'était plus qu'une croûte, quoi. Il venait pour un problème de peau, mais là, il l'avait pour le monde, son problème de peau. Une croûte, quoi. Il avait fait une libération de toxines et tout. Wow, il était dans un état, il puait, c'était une infection. J'ai dit, écoute, chez nous, 30CH, c'est une très haute dilution. Nous, sulfure, on donne, quand on commence, on donne en très basse dilution. On donne du 4 ou du 5CH. Ouais, et encore, on fait un drainage avant, on nettoie avant, quoi. On ouvre avant. Alors donc moi j'ai repris le chien de A jusqu'à Z, j'ai repassé sur des remèdes de nettoyage, etc. Et puis j'ai recommencé, parce que c'était le bon remède, elle avait bien.
Oui.
J'ai recommencé en 5CH, puis en 7CH. Le chien, j'ai des photos, il a récupéré 100%. Mais pour elle, elle était dans son truc d'Italie, mais on était en France. Et il faut vraiment s'adapter à ça. C'est ça qui est difficile à comprendre. Je sais que ça paraît farfelu.
Non, c'est pas farfelu.
Non, mais eux, ils peuvent avoir aussi des...
Si j'avais bien compris ce qu'ils nous avaient dit dans la formation, c'est qu'on peut faire de l'euthanasie avec de l'homéopathie.
Complètement. Hein, bah, ce chien, on a failli piquer.
Voilà.
Hein.
Plus on augmente le...
D'ailleurs, on a des bons résultats avec du 4, du 5, c'est
ouais. Ouais.
Alors, une autre question aussi. Le stockage des granules. Parce que... moi, je stocke ma pharmacie vétérinaire est à côté, est pas loin de mes disjoncteurs.
Ah oui, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon.
Donc on m'a dit, bah tu peux tout balancer.
Alors moi, je préconise le stockage des granules dans des boîtes comme j'ai là, donc c'est simplement des boîtes à outils, c'est tellement petit à stocker. Mmh. Et puis dans un endroit vraiment sain, quoi. Donc
parce que si on a des radiations, des champs électromagnétiques
qui sont
à proximité,
ça c'est vraiment pas bon.
Nique la formation,
complètement. Tu tues l'information. Ça, je suis d'accord.
Mais tu peux tout jeter.
Il peut tout jeter.
Pas de téléphone portable non plus.
Oui, j'allais dire champ électromagnétique.
Pas de wifi.
Alors bon, après. Alors après, c'est encore la même chose.
Exactement.
Il faut vivre avec son temps. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent chez moi et me disent ah non, non, mais moi, je ne veux pas de. Si, je ne veux pas d'éolienne à côté de chez moi, je ne veux pas la centrale nucléaire, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je dis mais d'accord, on est d'accord, pas de problème. J'ai dit montrez-moi votre téléphone portable. Téléphone portable. L'ordinateur,
le wifi,
la tablette,
le wifi
à la maison, la télé, dans
micro-ondes.
Le micro-ondes. Et qui c'est qui fait l'électricité? Vous avez un noir qui pédale dans la cave?
Non, je suis moi aussi.
Comme pas la grand-mère.
Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Alors après, le wifi. Alors, allez, mais wifi, gnagnagnagna. Je dis, bah, en attendant, je dis, vous êtes bien content quand vous venez à mon cabinet? Et que je peux aller sur Internet pour chercher tel renseignement, que si, que ça, etc. Il y a des choses, on est obligé de les
non, mais on peut faire en filaire derrière la maison. À l'intérieur de la maison, on peut le faire en filaire.
Ça dépend, il y a des maisons, on ne peut pas. Hein.
Oh.
Moi, j'ai une
bah
maison.
Bah si, il faut mettre le câble.
Oui, oui, mais moi, j'ai une maison, c'est impossible. Quoi.
Il y a trop de volume, on ne va pas tarder à avoir de l'optique.
Voilà. Mais après, tout est gérable. Tout est gérable, mais c'est vrai que bon.
Non, mais il faut le savoir, quoi, parce que
voilà.
Moi j'ai toute une collection. Hein?
Une collection. Oui, un petit stock, quoi. Voilà.
Un bon petit stock de tubes qui sont.
Et moi, c'est vrai que mais la partie la plus toxique de mon cabinet, je ne stocke que les tubes à prélèvement de sang, les toits des colliers comme ça, je ne stocke pas de médicaments à
faut le savoir, quoi, parce que c'est vrai que.
Les médicaments, j'essaie de les écarter au maximum, que ce soit les naturels ou pas naturels, je les écarte au maximum des compteurs électriques, des choses comme ça. Après,
même si tu pas les risques quand même, ça va pas jusque là quand même.
Ah non,
c'est vraiment les gros.
Les grosses condensations. Tu sais, moi, je vis comme tout le monde. Hein. Là, tu vois, cette nuit, j'ai dû dormir dans un hôtel.
Je ne sens rien, mais.
À la limite, je prendrais mon pendule, je regarderais la géobio, le machin. Et moi, quand j'arrive le soir, je suis fatigué, je ne pense pas.
Maintenant, il faut que j'arrête son temps.
On vit, quoi. Voilà. Bon, je crois que là, cette fois-ci, notre puissance.